Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Le scénario de sa vie est digne d'un film des frères Cohen. Lui, l'enfant terrible du cinéma français, eh ben il en a fait un livre. Je reçois Luc Besson, rêveur solitaire qui a bâti un empire, conspué par la critique mais chéri par le public, à qui il a offert Le Grand Bleu, Nikita, Léon, Jeanne d'Arc, Le Cinquième Élément, Lucie, entre autres. Dans Enfant terrible, qui paraît chez XO Éditions, Luc Besson raconte cet instant alors qu'il a 17 ans et rêve d'assister à un vrai tournage. « Suis les câbles !» lui crie un électro. Alors Luc Besson écrit « J'aperçois effectivement de gros câbles qui sortent d'un groupe électrogène et qui s'enfoncent dans le couloir mystérieux et sombre d'un immeuble. Je les suis et plus je m'enfonce dans ce couloir étroit, plus j'avance vers la lumière, la chaleur et le bruit. En fait, j'avance vers ma naissance. »
Europe 1.
Bonjour Luc Besson.
Waouh. Luc beau, Besson. C'est beau quand vous racontez.
C'est vous qui l'avez écrit. Luc Besson. Il paraît qu'un jour, votre psy vous a dit, vous savez, lorsque les gens vous parlent, ils ne voient pas Luc, ils ne le connaissent pas. Ils voient Besson, tout le monde voit Besson, producteur de cinéma et homme de pouvoir. Donc il était vraiment temps que vous l'écriviez, ce livre.
Oui, ça m'a fait un choc en fait. C'est la première personne qui un jour m'a fait comprendre ce miroir que je n'avais bizarrement jamais perçu. Et c'est la seule chose que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui parlent à ma place, mais ceux qui ont envie de savoir réellement qui je suis, bah, ça fait 450 pages.
Qu'on lit comme un roman.
Et c'est l'image que je vois dans mon miroir, ce que je crois être en tout cas, mais en tout cas c'est ma définition. Ce qui est quand même mieux d'une autobiographie d'il y a 2-3 ans d'un monsieur qui a écrit...
Non autorisé, c'est ça ?
Alors non autorisé, c'est très drôle parce qu'il n'a pas besoin de demander l'autorisation. Donc il n'y a jamais eu un moment où ce monsieur m'a dit « Est-ce que je peux la sortir ?» Et je lui ai dit non. Il ne m'a rien demandé surtout. Mais c'est drôle de voir un bouquin écrit par quelqu'un qui ne vous a jamais rencontré, qui n'a jamais rencontré personne de votre famille ni de vos amis, qui écrit sur vous. C'était assez incroyable quand même.
Donc il était temps, effectivement, d'écrire Enfant terrible. Alors, vous êtes un cinéaste, pas un cinéphile. Qu'est-ce qu'il y aura de toujours différent, Luc Besson, entre vous et les cinéastes formés par des écoles de cinéma ?
Je pense qu'on peut être cuisinier et pas forcément gourmand.
Et vous pensez qu'on peut exceller devant les fourneaux en étant cuisinier sans être gourmand ?
Oui. Oui, je pense sincèrement. C'est un truc que j'ai compris très tôt. En fait, j'ai été sur un tournage la première fois et c'est ça qui a bouleversé ma vie, en fait. C'est le plateau qui a bouleversé ma vie. Donc, mes chocs ne sont pas cinéphiliques. C'est pas des films qui m'ont donné envie de faire du cinéma, c'est des gens. C'est-à-dire que je suis arrivé sur un plateau, j'avais 17 ans, et on m'a dit « Comment tu t'appelles ?» J'ai dit « Luc, t'es là pour aider ?»« Oui. Est-ce que tu peux prendre les caisses qui sont là et les amener là-bas ?»
Ça démarrait.
Et j'ai dit oui. Et on n'avait rien besoin de savoir. Les deux choses qu'on m'a demandé, c'est mon nom et est-ce que j'étais là pour le film. J'étais accepté parce que la seule chose qu'on demandait à cette époque, dans les années 70, c'est est-ce que tu aimes le film ? Est-ce que le film est ton dieu ?
Alors, vous étiez là pour le film qui était votre dieu, mais en même temps, le scénario de la saga familiale et le scénario de votre enfance et de votre adolescence... Il aurait vraiment séduit, je le répète, les frères Cohen, tant il est riche de cruauté et de fantaisie improbable. Ça commence très très mal d'ailleurs. La mère de votre père est décapitée devant lui par un bombardement allemand le jour du débarquement. L'enfant de 7 ans est récupéré par les cousins qui le déshéritent. Son père anarchiste est emprisonné et envoie 3 malfroids pour l'enlever et l'amener à Paris où deviendra le king de Saint-Germain-des-Prés. Du côté de votre mère, c'est aussi rocambolesque, sa grand-mère tenait un bouge à Saïgon. Son grand-père était en prison pour polygamie. Quand vous naissez, votre père a trouvé un boulot dans un cirque et pour rendre service à un copain, il ramène dans le minuscule appartement familial un lion alors que vous n'avez que 8 mois. Vous en riez vous-même. Vous finirez régulièrement vos siestes dans le panier du lion, qui en fait est une lionne, comme vous deviendrez amis quelques années plus tard avec un poulpe, une murène et puis des dauphins sous d'autres latitudes. Bon, la suite de votre histoire, elle est aussi folle, tragiquement drôle et désespérée. Donc finalement, avant votre premier film, Luc Besson, bah votre vie, c'était déjà du cinéma.
Oui, celle de mes parents surtout. Ouais. C'est une autre époque. Ouais, c'est une autre époque. Il y a une liberté incroyable et c'est vrai que mon père a, pendant quelques mois, eu un lion de 80 kilos qui faisait traverser le boulevard Sébastopol à 7h du matin pour pas que ça se voit trop. Et il allait lui faire ses crottes dans le square de la Gaîté Lyrique qui est juste en face. Et à part la concierge qui avait un peu peur, les gens trouvaient ça juste amusant ou décalé d'avoir un lion. Mais c'était tout. Il n'y avait rien d'autre. Ça passait, quoi.
À l'époque, ça passait. Ouais. Alors, votre fascination pour le monde animal dans son ensemble, 29 ans avant Le Grand Bleu, on peut dire qu'elle est née de cette proximité surréaliste d'un fauve et d'un bébé dans un deux pièces du boulevard Sébastopol.
Il y a quelque chose chez les animaux, je crois que c'est pour ça que les gens aiment autant d'ailleurs les animaux de compagnie. Il y a quelque chose de cache dans un animal. Quand il vous regarde, ou quand, il n'y a pas de jugement. Et c'est quelque chose qui nous manque un peu aujourd'hui dans la société où on est tout de suite jugé. Et il m'est arrivé un truc très rigolo en arrivant chez vous. Il y a le monsieur de la sécurité qui fait ses contrôles, qui est un grand monsieur, un gros black, et en plus vraiment super gentil, et qui me dit « c'est par là ». Donc je suis le couloir qui m'indique, et donc j'arrive dans le bureau des livraisons de chez Europe 1,
ouais.
Parce qu'il était persuadé que, vu ma dégaine, j'étais un livreur.
Et c'est merveilleux.
Moi, ça me fait rire, ça l'a fait beaucoup rire aussi. Et il n'y a aucun... Je m'en fiche, mais vraiment complètement. On me prend pour un livreur 3 fois par jour, donc ça va. Mais il n'y a pas ça chez les animaux. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée un jour sous l'eau. Et je suis sur une paroi d'environ à peu près 60 mètres de fond. Et je vois une ombre qui passe sur cette paroi. Et je me dis, tiens, c'est bizarre que le bateau passe, mais on n'entend pas le bruit du moteur. Donc je me retourne. Et c'est un requin marteau qui doit faire à peu près 5 mètres. Il doit faire 2 tonnes. Un requin marteau. Voilà. Et comme tout bon terrien, j'ai une espèce de montée
d'adrénaline
et d'un début de panique de quelques secondes parce qu'il est juste énorme. Et il est assez lentement, il passe assez lentement comme ça. Et à un moment donné, je vois son œil et son œil me regarde en 2 secondes. Il regarde mes palmes, il me regarde moi. Et je vois dans son regard qu'il dit « Ah, toi aussi ?» Toi aussi, tu traînes cette solitude. Parce qu'un requin, pour ceux qui ne savent pas, un requin n'a pas de glande natatoire, il ne peut pas s'arrêter. Et c'est ce qui le rend pour moi très touchant, le requin.
Il est condamné à nager en permanence et bouger.
Voilà, il est sinon condamné à traverser le bleu comme ça en permanence. Et je me suis senti con d'avoir eu peur pendant quelques secondes, d'avoir eu peur de lui, alors que dans son œil, il y avait absolument aucune agressivité et au contraire, un espèce de partage.
On est en compagnie de Luc Besson. Cet après-midi, on fait une pause très courte. On le retrouve tout de suite.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h sur Europe 1. Europe 1.
Jusqu'à 16h, vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Une heure de confidence, une heure pour prendre le temps. Et cet après-midi, Isabelle Morizet s'entretient avec le cinéaste Luc Besson.
Cette fois-ci, il n'a pas pris sa caméra, mais sa plume. Je reçois Luc Besson qui publie chez XO Éditions « Enfant terrible ». Luc Besson, il ignorait votre père en répondant en 1963 à une petite annonce publiée par le CET, le CET, je ne sais pas comment on dit, l'ancêtre du Club Med. Il ignorait que c'est la vie en fait de son fils qu'il allait impacter. Un village de vacances venait d'ouvrir en Croatie, sur la côte adriatique, et on avait donc engagé votre père comme moniteur de voile et votre maman comme monitrice de plongée. Vous avez donc 4 ans, vous allez découvrir l'élément dans lequel toute votre vie vous vous sentirez le mieux, l'eau, la mer, la Méditerranée. Et en même temps, vous allez grandir dans la solitude la plus absolue, puisque, j'ai envie de dire, les adultes, pour résumer, ont oublié que vous existiez. D'ailleurs, à 8 ans, vous n'êtes pas scolarisé. Mais, vous savez aller sous l'eau caresser les murènes.
À cette époque-là, je pense que beaucoup de parents ne savent pas qui est Dolto, tout simplement. C'est-à-dire que cette génération d'après-guerre qui a tellement souffert et qui a vu les familles entières se faire décimer, et puis beaucoup de personnes qui ne sont pas revenues des camps, etc. C'est à cette époque-là, un enfant, à partir du moment où il mange, il va bien et il est là, et tout va bien, et on lui fait une tape sur la tête, et on lui fait un petit câlin de temps en temps, a priori, il peut pas se plaindre. Mmh. Et quand on a une sensibilité différente, on souffre de ça sans vraiment comprendre, en réalité. Parce que on n'est pas ni battu, ni puni, ni rien, mais...
Mais à 6, 7, 8 ans, vous passiez vos journées totalement seules, face à la grande bleue, vous aviez un chien, Et puis, alors j'en viens aux murènes. C'est quand même un poisson très dangereux, la murène, parce qu'elle a des dents redoutables. Elle a une salive qui contient du poison et puis une force impressionnante pour un corps qui va d'un mètre cinquante à 1m80. Comment, enfant, vous y preniez pour hypnotiser les murènes, en tout cas une d'un mètre 80 d'ailleurs, cachée dans son excavation, que vous alliez voir tous les jours?
Bah, d'abord, il y a le choix. Il y a 4 ou 5 enfants grecs qui ne parlent pas un mot de français, qui travaillent avec leurs parents à la pêche, donc que j'ai beaucoup de mal à voir, que je voyais un petit peu de temps en temps. Le reste, après, c'est des mérous, des murènes et des poulpes.
Et donc, des poulpes.
Il faut bien s'y faire. Mais non, on descend, on observe, on regarde. Alors, les animaux marins sont des animaux dits primaires. C'est-à-dire que si son ennemi est jaune et que vous êtes rouge, vous n'êtes pas son ennemi.
D'accord.
Et c'est des animaux souvent qui aiment bien qu'on les caresse. Et cette murène, en l'occurrence, elle adorait ça, quoi.
Alors, il y a un autre animal qui est devenu votre complice familier, qui adorait que vous le caressiez. Vous alliez le voir tous les jours à l'entrée du port. Il était caché sous le même rocher. Il sortait de son trou dès votre arrivée. C'était un poulpe. Un poulpe. J'ai trouvé la description dans votre livre, Enfant terrible, la description de la scène incroyable. Il vous laissait poser votre doigt entre ses deux yeux. Comme si c'était vraiment un point magique et vous ressentiez son bien-être et en fait il plaquait ses 8 tentacules autour de votre visage.
Ouais. Alors, il y a deux choses sur les poulpes qui sont formidables. D'abord, quand vous les caressez, ça c'est par rapport aux chats où je me disais, bah, les chats aiment bien ça, donc on va essayer sur un poulpe. Et en fait, c'est qu'il change de couleur quand il est content.
C'est pas vrai. Ah, oui, ça passe par quelle couleur?
À toutes les couleurs.
Non.
Ouais. Et quand il cligne des yeux, comme un chat un peu, et on sent qu'il va très bien. Et ses tentacules, du coup, ne collent plus du tout. C'est-à-dire, les ventouses ne collent plus. Et oui, il a tendance à mettre... déjà, un câlin à 8 bras, c'est mieux qu'à 2 bras. Hein, c'est quand même très tendre, un poulpe.
Bon, ceux qui nous écoutent, Luc Besson, comprennent que, en tout cas, enfant, vous viviez dans un monde totalement parallèle. Terreau formidable, effectivement, pour développer l'imagination, mais vous étiez complètement oublié par les adultes et donc non socialisé. Bon, le retour à Paris... Il a donc été très brutal. À l'école publique, derrière le boulevard Sébastopol, vous avez découvert un monde en béton. Votre peau, elle était noire de soleil, vos cheveux blancs décolorés par l'eau de mer. Et puis vous supportiez pas les chaussures puisque vous aviez toujours marché nu-pieds. À 9 ans, vous saviez à peine lire et écrire, mais vous saviez caresser les murènes. On vous a détesté d'entrée de jeu, c'est ça?
Non, pas détesté, mais c'est peut-être pour ça que j'ai toujours une bonne approche de façon générale. Par exemple, en banlieue, je me sens assez bien en banlieue avec tous ces banlieusards et tous ces jeunes gens. C'est que la différence est quelque chose qui m'a toujours attiré et qui m'a toujours nourri. Et je me suis toujours senti plus riche avec la différence des autres. Quand on est capable de s'acoquiner avec un poulpe et une murène, c'est pas parce que quelqu'un n'a pas la même couleur que ça va être compliqué. Enfin, c'est assez simple. Donc, je me suis très bien entendu très vite avec tous ces gamins, mais ils avaient un regard sur moi qui était compliqué, quoi, parce que ils savaient pas d'où je venais vraiment.
C'est le jeune sauvage, ouais, qui débarquait.
Donc ça c'était un peu compliqué, mais leur différence à eux, moi, me nourrissait, quoi.
Luc Besson, vous viviez en fait à la lisière de la pauvreté, boulevard Sébastopol, dans une chambre de bonne au 6e étage, avec l'eau sur le palier, les WC à la turque au fond d'un long couloir. Votre père n'était jamais là. Et puis votre maman, de temps en temps, elle disparaissait pendant toute une semaine parce que elle faisait l'hôtesse dans des salons à Francfort ou à Munich. Mais vous n'aviez que 9 ans. En 2019, une assistante sociale viendrait vous enlever à vos parents, sachant que vous passez une semaine entière tout seul. Dans une,
oui,
chambre de bonne au 6e.
Oui, c'est vrai, mais à l'époque, c'était assez normal. Il fallait qu'elle travaille, donc elle partait travailler, je restais, je savais me faire cuire un œuf, je savais faire des steaks, des pâtes.
Et vous réveillez pour aller à l'école?
Oui, bien sûr. Ouais.
Mais comment on s'endort à 9 ans, seul dans une chambre de bonne au 6e étage, quand on n'a aucune idée concrète de l'endroit où se trouve sa mère, où se trouve son père, et puis que les nuits se succèdent dans le même silence?
Alors, d'abord, j'ai toujours bien dormi. Et je crois qu'aller me coucher fait partie des moments que je préfère.
Parce que vous êtes un rêveur.
Bah parce qu'on choisit sa destination. On a l'impression d'aller à l'aéroport. On choisit sa destination, on choisit les gens avec qui on a envie de partir dans ce voyage. Et on part. Et il n'y a personne qui peut vous arrêter d'abord. Et personne qui peut vous joindre là-bas. Donc j'ai toujours aimé ce moment-là. Donc ça ne m'a jamais posé de problème.
On retrouve tout de suite Luc Besson, mon invité cet après-midi.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Europe 1.
Il est 15h23, la conversation entre Isabelle Morizet et son invité se poursuit. Aujourd'hui, c'est Luc Besson. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Certaines vocations sont de longs combats, car cette société se méfie des rêveurs. Mais Luc Besson n'a jamais lâché l'affaire. Il publie chez XO Éditions sa première autobiographie, Enfant terrible. Luc Besson, 9 ans. 9 ans, c'est l'âge de Mowgli, le héros du dessin animé de Disney, le livre de la jungle. 9 ans, c'est l'âge que vous avez lorsque votre maman a l'idée enfin de vous emmener au cinéma et voir justement Mowgli. Alors, l'identification, elle devient presque psychanalytique. Pendant une semaine, vous dormez par terre et vous rêvez d'être élevé par une panthère. Le tropisme pour les animaux ressurgit donc chez l'enfant qui caressait les murènes. J'ai envie de vous baptiser ainsi.
Ah ouais, complètement. Je me suis complètement identifié à Mowgli. J'ai d'abord eu une crise de larmes pendant plusieurs jours. J'arrivais pas à m'arrêter. Pour moi, c'est sûr, Walt Disney avait fait le film pour moi. Voilà. et je voulais être Mowgli. Je voulais retrouver ma vie sans chaussures. Je voulais retrouver les animaux. Et...
Oui. L'île de Yos, en Grèce, sur laquelle vous aviez passé une grande partie de votre enfance. Mais un an plus tard sort 2001, l'Odyssée de l'espace. Bon, l'une des vitrines des Galeries Lafayette est dédiée au film, avec un décor de science-fiction qui vous hypnotise. Donc vous suppliez votre mère de vous emmener voir le film, mais vous n'avez que 10 ans, bien sûr. Et votre mère vous dit, mais tu vas absolument rien comprendre. Bon, c'est pas le propos de comprendre. Vous savez déjà que l'important, c'est de ressentir. Confusément, vous devinez que c'est ça, le cinéma. En fait, c'est plus grand que la vie.
Oui, c'est pas tellement le cinéma, c'est... Ce que ça m'a surtout fait, c'est que je me suis dit, d'accord, la vie est beaucoup plus grande que ce qu'on me dit.
Ah oui!
Donc la vie est un peu étriquée qu'on me proposait entre l'école,
la
rue Saint-Denis, la chambre de bonne et un avenir à quelques mois. D'un seul coup, quelqu'un racontait une histoire, on me disait, mais non, la vie peut être en 3D. Et ça ouvrait simplement toutes les portes du possible. Il n'y avait plus de limites. On pouvait en fait imaginer et rêver sa vie.
Luc Besson, s'il fallait choisir un autre film fondateur qui vous a fait entrevoir la complexité émotionnelle des adultes et puis sans doute les scléroses de notre société, est-ce que ce serait par exemple Vol au-dessus d'un nid de coucou ?
Ah oui, complètement. Je crois que c'est en réalité le premier choc d'un film, c'est-à-dire la conscience que c'est un film. Je crois que j'ai à peu près 15 ans, je crois, ou 16 ans. Et Vol au-dessus d'un nid de coucou... C'est les fous ne sont pas fous, ceux qui disent ne pas être fous sont fous.
Voilà.
Et c'est ça qui est bouleversant. Et tout ce qu'on nous a appris, tout ce qu'on nous a montré dans cette société jusqu'à 14, 15, 16 ans, tous ces a priori, ces règles, sont d'un seul coup...
Du style les adultes ont raison.
Voilà. D'un seul coup, tout est chamboulé et on ouvre, encore une fois, on ouvre sur du possible avec cette scène magnifique de ce jeune homme qui a été enfermé par ses parents dans cet asile psychiatrique et qui bégaye et qui manque simplement d'amour et de... Mmh. Et Jack Nicholson qui le sort, qui l'emmène voir des filles et quand il revient, il bégaye plus. Mmh. Et c'est juste... C'est magnifique.
Alors, vous dites, j'ai vu Vol au-dessus d'un coucou, je devais avoir 15-16 ans. En fait, Luc Besson, pendant que vous grandissez et que se dessinent en vous des passions auxquelles vos parents n'entendent rien, le cinéma, bien sûr, mais aussi la photographie, la musique, vous voyez vos deux familles se recomposer sous vos yeux, deux familles auxquelles vous n'appartenez pas, puisque votre maman se remarie, votre père se remarie, et puis vous, vous n'avez votre place nulle part, sauf quand, pendant les vacances, dans des clubs med où travaille votre père, vous faites de la plongée et vous jouez dans les profondeurs avec les dauphins. Bien sûr, tout le monde imagine immédiatement le grand bleu, mais s'agripper à l'aileron d'un dauphin qui vous entraîne pour jouer sous l'eau et puis qui vous remonte à la surface comme si vous le lui aviez demandé, vous l'avez vécu souvent, en fait, ado.
Oui, ouais, la première fois, je devais avoir 11 ans, je pense. Et c'est pareil, le dauphin est un animal doué de raison et d'une intelligence folle. Alors d'abord, c'est un cousin à nous, il faut le savoir. Il a une intelligence supérieure et je me suis retrouvé avec ce premier dauphin. Alors, quand on se dit on tient à l'aileron, etc. Non, la première fois, il me noie à moitié. Parce qu'il faut qu'il regarde comment je bouge, parce que je suis quand même dans l'eau pour lui. Je suis vraiment une planche à repasser, quoi, par rapport à lui. Mais Mais une attitude. Alors, je pense que c'était un dauphin.
Mais après, il vient glisser son aileron dans votre main.
Oui, parce qu'il comprend au bout d'un moment. Et souvent, les dauphins qu'on voit solitaires, il y en a en Bretagne, il y en a un peu partout. Il faut savoir que les dauphins sont en couple pendant très longtemps. Et quand il y a un des deux qui malheureusement meurt, pour ne pas déséquilibrer l'ensemble du groupe, ils quittent le groupe et ils deviennent des dauphins solitaires. Et généralement, ils viennent chercher l'affection des êtres humains sur la côte.
Alors, on reste dans le monde aquatique. C'est au Club Med, Luc Besson, l'année de vos 17 ans, que vous allez faire une rencontre déterminante. L'homme a 70 ans, il s'appelle Victor De Santis, il réalise des documentaires sous-marins et un soir, il décide de projeter en plein air, comme ça, en tirant un drap blanc, son nouveau documentaire, Jacques Maillol, L'homme dauphin. Soudain, tout se superpose dans votre tête. Hein. 2001, l'Odyssée de l'espace, Jacques Maillol dans La nuit des profondeurs. Des images, voilà, plus fortes que le quotidien. On peut dire que cet été-là a changé à jamais votre vie ?
Oui, complètement. Ouais. Vraiment. Bah, d'abord, je n'avais jamais vu de reportage sur l'apnée. Il faut savoir qu'à 100 mètres, l'eau est à 7-8 degrés. Mmh. Il fait noir, il y a 10 fois la pression atmosphérique. Donc, c'est douloureux, normalement. Et la première fois que je vois cette descente, je vois cet homme qui a pris une goulée d'air et qui est descendu pendant près de 2 minutes le long d'un câble, qui arrive dans le noir total. Et quand je regardais le public pendant cette descente, tout le monde a le visage plissé de douleur tellement ça nous paraît insupportable. Et en fait, quand il arrive au fond, il prend sa petite plaque marquée 102 mètres, je crois. Il se retourne face caméra et il a un visage apaisé. Et là, je ne comprends pas. Et c'est le plus grand choc parce que je me dis, qu'est-ce qu'il voit que je ne vois pas ? Parce qu'il voit quelque chose, c'est pas possible. Il voit une autre dimension. Et à partir de là, je me suis dit, je veux savoir ce qu'il voit, en fait.
Et vous allez y parvenir. Europe 1. Alors, bien sûr, en rentrant en France en septembre, Luc Besson, vous allez vous débrouiller pour assister au tournage d'un court-métrage. Le lycéen que vous êtes en prend plein les yeux, vous portez les câbles, les caisses, vous vous proposez comme gardien de nuit, d'ailleurs, pour surveiller le matériel. Et de retour à la maison, vous annoncez à votre mère, « Demain, je ne vais pas au lycée, hein, je vais à Paris, je vais faire du cinéma. » On vous retrouve tout de suite.
Europe 1. Luc Besson est sur Europe 1 jusqu'à 16h. Il est l'invité d'Isabelle Morizet cet après-midi à l'occasion de la parution de sa première autobiographie, « Enfant terrible », paru chez Exo.
Alors Luc Besson, quand on rêve de cinéma, mais qu'on ne connaît personne, faut bien commencer par s'infiltrer sur les tournages. Familièrement, je dirais taper l'incruste. Pour ça, il y a deux solutions. Soit se glisser dans une troupe de figurants, soit se rendre indispensable comme stagiaire anonyme qui porte les câbles et les cafés. Vous avez fait les deux, Luc Besson, n'est-ce pas ?
Ah oui, j'ai fait même pire que ça.
C'est-à-dire ? Qu'est-ce que vous avez fait de pire ?
Bah, par exemple, je me souviens des studios de Boulogne-Billancourt où je ne pouvais même pas rentrer, en fait. Ce que je voulais, moi, c'était juste rentrer sur les plateaux et puis essayer de rendre service à qui veut bien, même sans être payé. Mais... Donc, j'avais repéré qu'à l'époque, les camions télé avaient toujours des petites échelles derrière les camions.
Ouais.
Donc, quand les camions se garaient contre le mur, je montais à l'échelle du camion et je sautais le mur de l'autre côté et puis je errais dans les plateaux jusqu'à... Ouais. Prétendre que je connaissais quelqu'un et j'essayais de m'incruster comme ça de n'importe quelle façon.
C'est comme ça, par exemple, qu'on vous retrouve dans la figuration d'un éléphant, ça trompe énormément.
Oui. Alors, incroyable. Je crois que c'est ce film-là. Dans mon souvenir, je pense que c'est celui-là.
Dirigé par Yves Robert.
Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une file de figurants. Donc, je me mets dans la file sans savoir exactement ce qu'il y a au bout et j'essaie de comprendre au fur et à mesure, puisque les figurants étaient enregistrés en bout de course. Et j'essayais au fur et à mesure, je me penchais un peu, j'essayais de comprendre ce qui se passait. Et quand je suis arrivé devant le gars, j'ai donné mon nom. Il m'a dit, mais je ne vous ai pas sur les listes. Et j'ai dit, ah, je ne comprends pas, le gars là, un peu gros avec une barbe, parce qu'il y a toujours un technicien qui est un peu gros avec une barbe. Il m'a dit, Jean-Louis ou un truc comme ça. J'ai dit, oui, bah lui, il m'a dit de venir, je ne comprends pas, je suis venu de Coulommiers quand même. Non, il ne faut pas me faire ça. Donc le gars, il m'a râlé en disant, oh là, c'est vraiment mal foutu. Bon, alors c'est quoi ton nom ? Et il m'a mis sur la liste, donc je me suis retrouvé après officiellement... sur le truc. Et sur un film où je comprenais rien du tout, d'ailleurs.
Mais alors, en étant figurant ou stagiaire, c'est-à-dire celui qui court partout pour se rendre indispensable, on a le temps vraiment de comprendre le placement des caméras, des cadres, des lumières, le travail des techniciens, les décisions du réalisateur ?
On est une éponge. Une éponge.
En tout cas, vous l'étiez.
Ah, je regardais tout. J'étais fasciné par... Alors, en plus, c'est un film qui avait les moyens, donc il y avait du matériel électrique. On regarde les électros, comment ils travaillent, combien ils sont... Les machinaux qui mettent leurs rails, qui mettent du talc pour pas que ça couine. Mmh. On regarde les assistants qui sont toujours plus fatigués que les autres. On regarde les maquilleuses.
Pourquoi ils sont toujours plus fatigués que les autres ?
Parce que tout le monde leur demande quelque chose aux assistants. Donc les pauvres sont toujours fatigués. Et le metteur en scène, qui, même si je l'apercevais de loin, n'était pas sur la même planète que les autres. Le metteur en scène est toujours dans deux ou trois plans plus loin que tout le monde. Il est décalé tout le temps.
Alors vous absorbiez tout ça, cette énergie incroyable et toutes ces techniques comme une éponge. Et puis en même temps, pendant cette période, eh bien, vous appreniez à écrire vos premiers scripts en les comparant. Alors ça, c'est incroyable. J'ai découvert ça en lisant Enfants terribles, qui paraît chez Ixo, en les comparant à ceux qui étaient dans les poubelles du CNC parce qu'ils avaient été refusés. Donc vous vouliez savoir surtout ce qu'il ne fallait pas faire, n'est-ce pas, ce qu'était un mauvais script.
En fait, je n'ai jamais eu un script dans les mains, donc je ne savais pas comment c'était fait. Donc j'étais au CNC, et un gentil monsieur, qui devait avoir 25 ans à l'époque, très, très sympa. Et puis en discutant, je dis, mais où est-ce que je peux avoir des modèles? Et en fait, les gens qui déposent l'avance sur recette doivent déposer, à l'époque, je crois, une vingtaine d'exemplaires. Et puis le reste, évidemment, ils le balancent à la poubelle. Et il m'a donné ce conseil incroyable qui m'a vraiment fait gagner beaucoup de temps. Il m'a dit, écoute, va dans la cour derrière, parce qu'il y en a plein dans les poubelles. Donc je suis descendu dans la cour et je suis revenu chez moi avec, je sais pas, une vingtaine de scripts. Et c'était pas tellement de savoir, il n'y avait pas de jugement, je ne veux pas savoir celui qui était bon ou pas bon, celui qui avait été pris ou pas pris. Mais ce que je voulais voir, c'est comment on le rédigeait, comment on donnait deux, trois phrases, comment les dialogues étaient articulés. Et en fait, j'ai appris comme ça en lisant les scripts des autres.
Alors arrive le mois de mai, Luc Besson, on est en 78. Vous venez de fêter vos 19 ans et vous rêvez de découvrir le Festival de Cannes. Le premier soir, vous dormez sur un banc dans la gare et les soirs suivants, vous dormez sur la plage.
Oui. Ben, j'ai pas le choix.
C'est merveilleux.
J'ai pas le choix. Et je me souviens, le premier soir à la gare, quand même, j'avais mal au dos, quoi, sur le banc. Et la plage, parce que j'ai habité en Grèce et dans tous ces pays-là, la plage, ça me pose pas de problème. Donc,
mais c'est quand même humide le mois de mai sur la croisade
non,
dehors,
la plage, il y a pas la plage, il y a pas de problème. Dormir sur la plage et être bercé par la mer, et ça vaut tous les 5 étoiles du monde.
Alors vous dites, le Festival de Cannes, c'est comme un 4/4. Les gens viennent un quart pour le soleil, un quart pour se montrer, un quart pour la fête, un quart pour voir les films. Les Français brassent de l'air, les Américains bossent. Et les Asiatiques achètent. Donc, finalement, un jeune inconnu qui rêve de faire des films, il n'a rien à faire à Cannes.
Rien du tout.
Rien du tout.
Non, rien du tout.
Et ben voilà, un très beau conseil qui va faire gagner du temps à certains. Alors, Luc Besson, vous deviendrez stagiaire, d'abord sur des pubs, puis sur des films, et puis votre rage d'y arriver vous hissera bientôt au rang d'assistant. Tout ça pour parvenir enfin à tourner le scénario de 12 pages que vous avez écrit avec votre pote Pierre Jolivet, Le Dernier Combat. Mais bien sûr, pour tourner un film, même en noir et blanc et sans vedette, bah faut de l'argent. Tous les producteurs et tous les distributeurs de Paris refusent votre projet. Un cinéaste, sans jeu de mots, hein, c'est vraiment un coureur de fond.
Oui, vraiment. Oui, et puis y a toujours eu quelque chose qui m'a toujours étonné dans ce métier, c'est que vous prenez par exemple un jeune tennisman de 12 ans, n'importe quel entraîneur national qui va regarder ce joueur de tennis de 12 ans est quand même capable de dire, lui, il a un potentiel, il peut faire quelque chose. Dans le cinéma, c'est jamais le cas. Mmh. C'est-à-dire que pratiquement tous les grands metteurs en scène que je connais qui ont démarré ont eu des refus de partout. C'est-à-dire que ce métier n'est pas capable de voir qu'un jeune homme qui a fait 2 ou 3 courts-métrages, il a un talent et qu'il faut le suivre. Donc, c'est assez paradoxal. Quand on sait, par exemple, que La Guerre des Étoiles a été refusée par tous les studios...
Oui.
Alors que c'est le film dans l'histoire du cinéma qui a rapporté le plus d'argent.
Le plus glorieux, voilà.
On se demande comment ça se fait que 5 studios avec 2000 personnes, personne n'a vu que cette chose-là pouvait être appétissante. Et c'était assez étonnant parce que l'un des premiers courts-métrages que je fais, qui s'appelait L'Avant-Dernier, c'est un court-métrage en noir et blanc, en cinémascope, avec Pierre Jolivet et Jean Reno. C'est-à-dire que c'est 9 minutes du futur long métrage qui s'appelle Le Dernier Combat et qui va faire 1h30. Et c'est exactement la même chose. Et personne n'était capable de voir, alors que tout le monde a encensé après Le Dernier Combat, avant, personne n'a été capable de se dire Jolivet a du talent, Jean Reno a du talent, Luc en a peut-être un peu, Eric Serra avait déjà fait la musique. Donc tout était déjà là. Et pourtant, personne n'en voulait.
Alors, ce vrai premier long-métrage que vous venez d'évoquer, Le Dernier Combat, il a été sélectionné au Festival du film fantastique d'Avoriaz. Or, ça, faut vraiment nous raconter parce que c'est complètement fou. La copie ne sort pas du laboratoire dans les temps. Et on annonce une tempête de neige absolument monstrueuse à Avoriaz avec fermeture de l'unique route qui monte à la station. Bon, quand les bobines sont prêtes, il reste que quelques heures avant la projection, devant le jury, présidé par Robert De Niro. Et il faudrait vraiment un miracle, mais personne ne peut accéder à la station parce que, en fait, la route est coupée. Et là, vous pensez à quelqu'un qui, jusqu'à présent, n'avait fait que vous pourrir la vie et qui va vous sauver.
Ouais. Ben c'est mon beau-père. Mon beau-père, j'ai des relations difficiles avec lui. C'est un ancien pilote de Formule 1. Il ne tolère que les bruits de moteur. Ouais. Hein, donc les mots ne l'intéressent pas tellement. La musique, j'en parle même pas.
Ouais.
Et j'ai toujours des relations difficiles avec lui. Il était assez ours, en fait. Et ça s'est bien amélioré plus tard. Évidemment, en grandissant, on apprend à connaître les gens et après, ça allait mieux. Mais dans l'état affectif dans lequel j'étais adolescent, c'est pas du tout ce dont j'avais besoin. Moi, j'avais besoin qu'on me fasse des câlins et qu'on me dise qu'on m'aimait. Et c'était vraiment pas son créneau. Ils habitaient dans le sud de la France. Quand je comprends que la copie n'arrivera pas à Avoriaz, que le film ne va pas passer et que donc ma vie s'arrête parce qu'on était voilà. Juste criblé de dettes,
ouais.
J'appelle ma mère et je pense avoir une voix à ce jour-là, peut-être pour la première fois, assez mature. Et je lui dis, si vous ne me sauvez pas là, je vais vous en vouloir toute ma vie et vous allez vous en vouloir toute votre vie. Donc elle a dit à mon beau-père, tu prends la voiture, tu vas chercher le film et tu montes. Il a fait, mais elle lui dit, tu discutes pas, tu montes dans ta voiture. C'était réellement un excellent pilote.
Oui,
vraiment.
Ancien pilote de Formule 1, ouais. On le rappelle.
Et il est arrivé en bas de la station. Il a évidemment pas de chaîne, pas de pneus clous, rien. Il
c'est
tombe sur la gendarmerie qui lui dit non, c'est fermé. Il dit je vais à 50 mètres, voire là, juste là, machin. On le laisse passer. Et il est monté de nuit, je ne sais pas comment. Il devait y avoir, je ne sais pas, 20 cm de neige. Et j'ai vu arriver, parce que j'étais en haut, j'attendais en haut en espérant qu'il vienne. Et on voyait les phares, parce que la voiture était en travers tout le temps. Et il est arrivé et il m'a donné les films et il dit « Tu m'emmerdes avec ton film
!» C'est fabuleux. Luc Besson, qu'est-ce qu'on bredouille quand pour son premier long-métrage, donc ayant remporté le prix du public, le prix spécial du jury et le prix de la critique, on monte sur scène recevoir ses trophées qui sont remis par Robert De Niro en personne, sous les acclamations de Jean-Jacques Hano, de Gérard Roury, de Alan Pakula et de George Miller. De Niro plante son regard dans le vôtre, you fuck my wife. Vous félicite et vous lui dites quoi?
Ouais, je pense qu'il m'a dit you talking to me. Alors, je suis incapable de me souvenir, ne serait-ce que d'un seul mot que j'ai pu prononcer sur cette scène, tellement je m'y attendais pas, mais alors pas du tout. J'avais à peine 20 ans et je sortais de nulle part. J'avais une chemise, il faisait moins 20 et je pense que les gens étaient heureux d'un seul coup de cette espèce de miracle qui arrivait de nulle part avec Pierre Jolivet qui était lui connu mais qui était plutôt dans un registre comique alors que là il était vraiment excellent en tant qu'acteur, d'un Jean Reno qui débarquait, d'une musique très inspirée du jazz rock de l'époque, donc vraiment un ovni total et je pense que les gens étaient heureux d'assister à ce moment-là et ça je l'ai ressenti, il y avait une chaleur. J'ai eu l'impression de gagner 3-0, d'être champion du monde, tellement les gens m'embrassaient et partageaient cette émotion.
Vous n'arriviez de nulle part, mais le monde, soudain, était à vous. On fait une pause, on retrouve tout de suite Luc Besson.
Europe 1. Depuis 15h, Isabelle Morizet retrace le parcours de Luc Besson. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, la suite est fin sur Europe 1.
Rêver en grand, en très grand. C'est ce qu'il a fait Luc Besson, qui fait paraître Enfant Terrible chez XO Éditions. Alors Luc Besson, après un premier film, Le Dernier Combat, ultra primé, mais qui est là, ça fait peu d'entrées, quand on a 21 ans et qu'on se retrouve avec 1 million d'euros de dettes, on le monte comment, le deuxième film?
Alors, 3 millions de dettes.
Ah bon? Bon. Alors, je repose la question non, le sourcil qui descend.
Non. Mais je sais pas, en fait. J'étais déjà très heureux d'avoir réussi à en faire un.
Oui.
Et je me souviens demander au ciel en disant, est-ce que je peux en faire juste un autre? Après, je promets, je veux bien m'arrêter, mais juste un autre. parce qu'il y avait ce scénario de Subway que j'écrivais depuis très longtemps, et j'avais vraiment envie de le faire. Mais il y avait une espèce d'excitation sur le projet qui a été très très long à se faire, vraiment. Et puis il y a une personne un jour, il faut que je raconte l'histoire, parce que j'avais une première actrice, je le raconte dans le bouquin, mais il y avait une première actrice qui devait faire le rôle.
Charlotte Rampling.
Okay, voilà, ça a été très compliqué, je donne pas mal de détails, mais ça a vraiment été compliqué. Et on m'a proposé de faire le clip d'Isabelle Adjani, oui. Qui s'appelait Pulmarine.
Oui.
Et on s'est très bien entendu, vraiment. Et puis, d'un seul coup, c'était trop compliqué avec Charlotte. Et même si le rôle ne correspondait pas à Isabelle, je l'ai appelée, enfin, j'ai même été la voir. Et je lui ai dit, écoute, Isabelle, j'ai écrit ce script qui s'appelle Subway. C'est pas pour toi, normalement, mais j'adorerais le faire avec toi. D'abord, elle a éclaté de rire, parce qu'à cette époque-là, elle est numéro 1 incontestable
oui,
en France.
Oui, oui.
Et elle dit, c'est quand même la première fois qu'on me vend un film en me disant que c'est pas pour moi. Et elle a pris le script, elle m'a dit, ok, je lis et tout. Et je suis rentré chez moi, il était 20h, et elle a appelé à 2h du matin. Et elle a dit, c'est formidable, je le fais.
Alors, il y a un autre personnage, une star planétaire, n'est-ce pas ? Qui était le chanteur de Police qui tenait absolument à jouer dans ce bouet. Mais là où l'histoire est complètement folle, c'est que vous allez rencontrer Toscan Duplantier, directeur général de Gaumont. Et voilà que Toscan, apprenant que Sting voulait absolument tourner dans votre film, même pour un cachet dérisoire, Toscan fronce les sourcils et vous dit « Mais c'est qui Sting ? Je connais pas. »
Bah oui, c'était le choc des deux mondes. Effectivement, il écoutait beaucoup de Mozart et très peu de Police. Donc quand je lui ai dit « Mais le Police, etc. », il m'a dit « Mais non, c'est qui ?» Je lui ai dit « Bah, tu vois les Beatles, c'est ça en plus gros. »
Et ça ne t'a pas convaincu pour autant ?
Non, c'était à l'époque, Gaumont est une très belle société, mais on l'appelait toujours la grande dame. Et c'est vraiment un choc de culture. C'est-à-dire, on a essayé pendant des jours et des jours de me convaincre que mon film ne pouvait pas s'appeler Subway. Ça n'existait pas. Un film français devait avoir un titre français. Donc on m'a proposé Métro de nuit. Et Métro de nuit, ça ne m'allait pas. C'est-à-dire...
Ça fait penser déjà au film de la première actrice envisagée pour Subway, Portier de nuit, Charlotte Rampling.
Oui.
Bon.
Mais voilà, il y avait vraiment un choc de culture. Ça a été vraiment compliqué. Le jour où Isabelle a dit « Je fais le film », j'avais écrit « Le plus beau scénario du monde », tout allait bien, il n'y avait plus de problème.
Alors Luc Besson, Subway est un triomphe, premier au box-office, donc bien évidemment les journalistes vous éreintent et ne vous lâcheront plus. Subway a été compliqué à monter, mais l'aventure du Grand Bleu, elle n'a pas été plus simple. Il y aura plusieurs moutures d'ailleurs du script du Grand Bleu, dont une détenue par Warren Beatty, à qui il faudra faire un procès pour récupérer les droits du film de votre vie. À ce moment-là, donc, vous n'avez plus de nom, vous n'avez plus d'identité. Mais ce film, après le procès, vous allez le tourner sur l'île de votre enfance, en Grèce, avec au casting, alors c'est complètement fou, c'est comme une mise en abîme. Dans le rôle, donc, de Jacques Mayol enfant, votre véritable demi-frère, vous prenez votre vrai père pour jouer le père de Jacques Mayol. Vous vous retrouvez, en fait, sur le paradis de votre enfance, avec des caméras plantées au sol, et vous faites entrer votre vraie famille dans l'image. On est dans le surréalisme. Ça, les gens qui vont aller voir en salle Le Grand Bleu l'ignorent.
Oui, oui, bien sûr. Et c'est assez étonnant parce que pour jouer le rôle de Jacques Mayol petit, je cherche un acteur et je mets mon demi-frère, mon petit frère qui s'appelle Bruce, je le mets en réserve, ça s'appelle. C'est-à-dire que si jamais on ne trouve pas, je sais que lui, il plonge déjà comme un poisson et il sera très bien dans le rôle. Donc je le mets en réserve. Pour le père de Jacques Mayol, je veux à l'époque Enzo Maiorca, qui est le grand rival de Jacques Mayol. Et Enzo Maiorca, qui a inspiré quand même pas mal le personnage d'Enzo, refuse de participer au film. Il n'a pas envie de venir, etc. Et j'avais mis mon père en réserve du rôle. Donc je me suis retrouvé à tourner avec les deux remplaçants. Mais d'un seul coup, j'ai mon demi-frère, donc, qui vient évidemment avec ma mère et mon beau-père.
Oui.
Et j'ai mon père qui vient avec sa femme. Et je demande à mon frère de pleurer la mort de son père, qui est le mien, devant son vrai père. Donc, d'un seul coup, ça devient oedipien comme c'est pas possible. Et je ne me rends compte que le jour du tournage. Et je me souviens de me dire, surtout Luc, ne pense pas à ça, parce que tu ne vas pas arriver à tourner. Et je me forçais à dire, non, non, Mayol, Mayol Petit,
voilà.
Le père de Mayol, voilà.
Alors, il y a un faux raccord dans Le Grand Bleu. Je sais.
Plusieurs.
Il y en a un qui vous agace particulièrement. Vous n'allez pas nous dire où il se trouve.
Il y en a un qui était cette espèce de boule sur le gilet. Je ne sais pas si c'est celui-là dont vous parlez. Ou sinon, il y a le maillot de bain Jean Reno.
Oui.
En fait, la scène où Jacques Mayol et Enzo emmènent le dauphin ils l'enlèvent du Marineland pour le ramener dans la mer. Donc, il y a un plan où on les voit traverser cette ville de Taormina en Sicile avec le dauphin dans un brancard.
Ouais.
Ils arrivent sur la plage et ils libèrent le dauphin. Le dauphin dans le brancard est forcément un faux dauphin, qui est un dauphin en plastique, qui était très bien fait par contre. Et le moment où le dauphin va réellement dans l'eau, c'est des plans qui ont été filmés 3 mois plus tard aux îles Vierges. Donc en fait, le plan sur la plage de Enzo et de Rosanna, c'est un champ. Et le contre-champ de Jacques Mayol avec le dauphin, c'est 3 mois plus tard à 6000 km de là.
Mais le maillot de bain n'est pas de la même couleur.
Et le problème, c'est qu'on a des problèmes budgétaires, on n'emmène pas la script.
J'allais vous demander
et
ce
donc,
qu'elle faisait.
Quand on arrive aux îles Vierges, je dis à Jean Reno, je dis, mais est-ce que tu te souviens du maillot de bain que tu avais sur la plage? Parce qu'à cette époque-là, on n'a pas les roches avec nous, on n'a pas tout ce matériel. Et il me dit, j'ai le maillot de bain noir, j'en suis sûr. Donc je lui fais confiance. Et 2 mois plus tard, au montage, il est sur la plage avec un maillot à rayures. Et il rentre dans l'eau avec un maillot de bain noir.
Formidable. Heureusement que Jean Reno est acteur et pas script. Alors, Enfant terrible, que vous faites paraître chez XO Éditions, s'achève sur l'aventure du Grand Bleu, l'année de vos 29 ans, il y a 31 ans, Luc Besson. Donc, c'est 31 années suivantes, aussi folles, euphorisantes et complexes que les premières, mais pour d'autres raisons. Est-ce qu'on va les découvrir un jour dans peut-être le tome 2 d'Enfant terrible?
Alors, oui, bien sûr. Quand, je ne sais pas, mais à mon avis, il va falloir encore... Bon, on a attendu 29 ans pour avoir le premier tome. On va attendre un peu pour avoir le deuxième. Mais d'ici quelques années, disons, je ne suis pas pressé de... Mais le premier s'appelle Enfant terrible et j'aimerais bien appeler le deuxième Enfant gâté. Parce que c'est vrai qu'à partir du succès du Grand Bleu, ma vie professionnelle, ma vie tout court, a complètement changé. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la rue et qu'on vous dise « Ah Luc, c'est formidable, je peux faire une photo », c'est une vie d'abord sur laquelle je n'étais pas préparé du tout, parce que je viens vraiment de Yos sur ma plage avec 3 chèvres. Je n'étais pas préparé à ça.
Un ciel saturé de bleu.
Il n'y a pas d'école pour vous l'apprendre. Il y a beaucoup de pièges après ça. Il y a beaucoup de gens qui sont là pour abuser de vous, pour vous mentir, pour vous... Ça a été un apprentissage peut-être plus dur encore et plus douloureux que la première partie. La première partie, c'est une survie. Et la deuxième partie, il faut apprendre à vivre dans un monde hostile, ce qui n'est pas pareil du tout. Et voilà, je pense que d'ici quelques années, j'essaierai de d'écrire cette deuxième partie qui n'a vraiment aucun rapport. Aucun rapport, en fait.
Je l'attends déjà, cette suite. Enfant gâté. En tout cas, la première autobiographie de Luc Besson vient de paraître chez XO Éditions. Enfant terrible. Il faut vraiment plonger dans ce... récit digne du plus fou des scénarios et pourtant qui livre juste une vérité hors norme. Merci infiniment pour cette générosité de parole, Luc Besson.
Ben merci beaucoup à vous, c'était très agréable.
À très bientôt.
C'était Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Vous pourrez bien sûr vous replonger dans cet entretien grâce au replay et au podcast sur europe1.fr. Isabelle Morizet revient le week-end prochain avec 2 nouveaux invités. Garou pour la sortie de son album Soul City. Et puis dimanche, ce sera au tour de l'écrivain Bernard Werber de se raconter. À suivre les infos de 16h et puis l'équipe est sauvage de Mathieu Noël. Europe 1.